Je vais donner la parole à Daniel Meza Concedo, qui est venu d'Espagne. On lui doit, comme le disait à l'origine Sylvie Protin, la découverte de l'œuvre poétique de Cortázar. Sa thèse en 97 portait sur l'œuvre poétique de l'écrivain qui nous réunit aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci d'être là.
Merci. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque, et très spécialement à Sylvie Protin, dont on se connaît déjà depuis pas mal de temps. On se suit l'un l'autre. Je vais aussi remercier très spécialement Mademoiselle Lucie Morel-Petetin d'avoir traduit mon texte. J'espère que ma prononciation ne va pas très trahir, pas trop son excellent travail. En tout cas, elle l'a fait plus compréhensible pour moi-même, en fait. Je vais parler d'un exercice de poésie lyrique que Cortázar a publié dans son recueil posthume, Salvo el crepúsculo, Crépuscule d'automne. Il s'agit des trois sonnets en pseudo-italien qu'il a intitulé Tre donne, et dont je lirai peut-être à la moitié de mon exposé le premier de ces sonnets pour savoir de quoi on est en train de parler. Mais bon, un jour, alors qu'il évoquait certaines particularités du caractère argentin, Cortázar écrivit: Une de nos aspirations les plus chères, comme tout le monde le sait, consiste à substituer à un mot espagnol un mot italien chaque fois que c'est possible, et surtout si ça ne l'est pas. Bien des années plus tard, et même seulement après sa mort, on put lire un triptyque composé de trois sonnets dans lesquels Cortázar semblait porter à son paroxysme ce trait de caractère, trait donne, comme je viens de le dire. Dans ces sonnets, Cortázar active implicitement au moins deux traditions que nous pouvons associer avec les avant-gardes historiques: l'invention des mots et l'écriture poétique dans une langue différente de celle originaire de l'auteur, et il les combine avec une autre tradition plus ancienne, celle du sonnet érotique pétrarquiste. La question de l'invention des mots et l'importance du thème amoureux s'inscrivent dans la prolongation d'intérêts facilement repérables dans le reste de l'œuvre cortázarienne. De fait, tous deux sont réunis dans le célèbre chapitre 68 de Rayuela, Marelle, écrite en giglicien, comme on le sait. Au contraire, le choix d'une langue différente de la langue maternelle, comme le recommandait Vicente Huidobro, interpelle davantage. Jusqu'à une époque très récente, on croyait que Cortázar n'avait jamais écrit la version originale d'aucun de ses textes de création dans une langue autre que l'espagnol, et ce, bien qu'il dominât l'anglais et le français, langues dans lesquelles il exerça en tant que traducteur professionnel et littéraire, et dans le cas du français, au sein de laquelle il vécut pendant une grande partie de sa vie. Nous savons désormais que ce n'est pas exactement comme ça et qu'il y a quelques textes écrits originalement en français ou en anglais. Mais dans ces circonstances, sa décision de composer et de préparer pour la publication ces trois sonnets écrits dans une langue qui ressemble assez à de l'italien, bien qu'il n'ait jamais donné dans cette langue de preuves objectives de sa compétence qui soient comparables à celles offertes en anglais et en français, prend toute son importance. De son propre aveu, dans la note qui introduit ses poèmes, ce qui ferait l'objet de mon commentaire plutôt que les poèmes eux-mêmes à cause du manque des temps, Cortázar affirme qu'il avait étudié un peu d'italien dans les années 50, sûrement à cause de la fascination pour la culture italienne de la Renaissance ou pour les peintres préraphaélites qui a guidé ses premiers pas en Europe, comme l'attestent ses lettres et ses nombreux poèmes de l'époque. Pendant toute sa vie, il s'obligea avec jouissance à faire étape à Venise au cours des voyages quasi annuels qu'il faisait entre Paris et Vienne pour des raisons professionnelles. Il vécut un temps plus ou moins long à Rome, où il suivit admiratif les pas de John Keats. C'est là que, non moins admiratif, il traduisit Edgar Allan Poe en compagnie de sa première épouse, Aurora Bernardes, décédée il y a peu de jours, ici à Paris en fait, qui deviendrait plus tard, Bernardes, la traductrice d'Italo Calvino, amie personnelle du couple, est l'un des premiers lecteurs, comme on le verra, de ces sonnets cortassariens in italico modo, à la façon italique. À cause de l'irrévérence qu'il se propose dans cet exercice poétique, les motivations à caractère ludique sont des plus importantes. Toutefois, sous l'apparence des plaisanteries linguistiques se cache un hommage profond à une langue et à une culture envers lesquelles, en tant que vieux poète, comme il se dénommait lui-même, il se sentait redevable. De plus, il me semble qu'il y a dans cette expérience une fusion entre poésie et fiction que l'on peut voir comme une invitation à emprunter un nouveau chemin vers une nouvelle modernité. Peut-être c'est maintenant le moment de lire le premier de ces sonnets d'une façon emphatique, comme il recommande. Le premier s'appelle Simonetta. Simonetta, la fosca malintesa chiude le rami in altri fino al nardo. Magari tui alonghi di leopardo montano al valle dove sta la chiesa. O forse no, forse stai muta e resa da fronte al mare pigiotando il dardo. Mi lascerai almeno essere un tardo seguitore e lo schiavo che ti stresa? Ieri venivano i dolente sprozze, sospirando col giglio e col fenoglio, in mezzo al trimalcionico festaccio. Ma questa sera, Simonetta, nozze di ombra amaranto e razzi dell'orgoglio giungono furia nel luttuoso bacio. Considérer la langue italienne comme le véhicule par excellence d'un certain type de contenu, la poésie érotique, peut sembler, à première vue, un lien archaïssant. Il ne serait pourtant pas superflu de rappeler que dans l'histoire de la poésie hispanique, l'adoption de modèles italiens pour l'expression poétique représenta à une époque un élan de modernisation. Le titre que porte le bref prologue que Cortázar écrivit pour ses sonnets, « In italico modo », ne laisse pas place au doute quant à la connaissance qu'il avait de cette connexion. Íñigo de Mendoza, marquès de Santillana, avait désigné sous le nom de Sonetos fechos al italico modo, sonnets faits à la façon italique, les 42 pièces dans lesquelles il essaya d'adapter au milieu du XVe siècle l'endécasyllabe italien à la poésie castillane. L'allusion provoque, non sans ironie, quelques réflexions fondamentales. En premier lieu, on découvre dans le texte un modèle, plus ou moins lointain, qui renforce la vigueur du sonnet comme forme poétique par excellence à travers toute l'écriture cortazarienne. La référence en direct au plus ancien recueil de sonnets écrits en espagnol est un hommage à l'introducteur d'une des formes les plus pratiquées par tous les poètes de cette langue. Mais la référence est ironique pour deux raisons au moins. En premier lieu, parce qu'elle comporte quelque chose d'une excusatio indirecte. Cortázar ne pouvait pas ignorer que les succès du marquis étaient limités, ne serait-ce qu'à cause de l'accentuation imparfaite de ses textes. Aspect, l'accentuation de ses propres sonnets qui sera d'ailleurs explicitement soulignée par Cortázar. La deuxième raison de cette ironie est précisément que ces sonnets, à la différence de ceux du marquis, ne sont pas en langue castillane, et que par conséquent, l'italico modo, la façon italique qui les qualifie, doit avoir un sens différent de celui qu'il avait pour son modèle primitif. Il ne s'agit plus de l'adaptation d'une forme à une langue différente de celle qu'il a vue naître. Ces poèmes se présentent écrits sur une matrice idiomatique essentiellement italienne. La transposition qui y a lieu, celle que désigne el modo, la façon de Santillana, ne sera pas interlinguistique. Chez Cortázar, el modo, la façon, signifie une imitation et une limitation, la déclaration de la parodie, la confession du comme si, le saut en somme vers un modo, une façon de faire plus proprement moderne. Et on le sait bien, moderne vient des modus. On dirait des poèmes en italien, mais il n'en est rien. Il est tout de même utile d'apporter une précision qui fait le lien entre le projet cortazarien et l'histoire du sonnet en espagnol. L'adoption de cette forme poétique nouvelle impliqua nécessairement l'assimilation d'un lexique qui fut pendant longtemps perçu comme étrange pour de nombreux lecteurs. La réécriture de la forme sonnée à laquelle s'essaie Julio Cortázar suppose également l'adoption d'un ensemble de mots nouveaux qui prétendent s'insérer de façon naturelle dans le discours. Dans tous les cas, pour toutes ces raisons et pour d'autres, on peut penser que l'exercice que l'auteur argentin mena à bien dans ses trois sonnets comportait une perspective littéraire qui transcendait les caractères simplement ludiques ou parodiques que le poète lui-même semblait leur octroyer dans le prologue qui les précédait, une fois publié. Le simple intérêt ludique conduit à l'auteur, toutefois, à mentionner deux modèles qui, en plus de l'implicite modèle du marquis de Santillana, nourrissent son écriture, le cocoliche et la hypneurotomachia polyphili, le songe de Polyphile, de Francesco Colonna. Cette association paraît étrange, mais pour cette raison, elle suppose un de ces exercices de correspondance que Cortázar aimait tellement. En se souvenant que le cocoliche est la façon argentine de parodier une langue, l'italien, ce sont ce propre mot, que nous pratiquons surtout dans sa version dégradée, l'auteur lui-même inscrit ses textes dans une catégorie déterminée d'écriture aussi connotée que la parodie. Et à nouveau, il ajoute l'allusion à une certaine idiosyncrasie nationale qui, de ce fait, devient l'objet de cette parodie. Mais la référence à Colonna, qui surprendra Italo Calvino lui-même, puisque selon Cortázar, même en Italie, il y a peu de gens qui s'en souviennent, élève la dégradation au rang d'imitation d'un modèle que Cortázar qualifie de classique. Cortázar mêle dans son projet le parler populaire et une érudition qu'il juge étrange, mais qui contribue également à son projet littéraire. Tout en confessant ses possibles sources immédiates, il établit la dynamique de sa création comme un procédé dialectique. La thèse est l'apprentissage de l'italien standard. L'antithèse, évidemment, la pratique dégradée, vulgaire du cocoliche. La synthèse pourrait être l'élévation de ce jargon dégradé au statut de langue d'art, en suivant le modèle d'une œuvre classique appartenant à une certaine tradition humaniste très connotée, accessible seulement à un certain type d'érudit. D'un autre côté, j'ai dit que dans la présentation de ces sonnets, le poète faisait semblant de leur octroyer une intention précise qui soit simplement ludique ou parodique. Il me semble que pour mieux comprendre la portée de ce projet cortazarien, il est nécessaire de s'intéresser également aux relations entre poésie et fiction. Dans un essai déjà classique, « Fiction et diction », Gérard Genette reconnaît le lien étroit entre fiction et narration en fonction de la référence, et soutient que les prétentions à la littéralité du discours lyrique fonctionnent dans un autre registre, celui de la diction, en fonction, pour faire simple, de la voix et du style. Cependant, des poèmes parodiques, comme le sont ceux de Cortázar, parce qu'ils mettent en évidence le fait que la voix qu'on y entend est différente de celle du poète, se situent, à mon avis, pour le moins à la frontière entre fiction et diction, puisque la responsabilité du discours est attribué à une voix qu'il faudrait considérer artificielle et que, de plus, ils adoptent une langue qui n'est pas moins feinte. Les sonnets italiens de Cortázar supposent donc, à mon avis, une tentative évidente d'enquêter aux limites d'une possible prise en compte fictionnelle du genre lyrique. L'auteur déclare que leurs trois destinataires n'existaient pas, de même que la langue dans laquelle elles furent célébrées, et insiste sur le fait qu'ils sont composés des mots, je cite, « inventés à tire d'aile, tout comme les trois protagonistes et les sentiments qui s'y versent. En résumé, la seule vérité est les sonnets en tant que forme, le reste est pur baratin. » D'une certaine façon, on pourrait penser que pour l'auteur argentin, la fiction en poésie ne peut conduire qu'à un résultat humoristique, à une poésie de second ordre, dépendante ou hybride, comme toute parodie, à une poésie finalement inauthentique. Mais en affirmant que le seul élément vrai est les sonnets en tant que forme, l'auteur semble s'engager dans l'idée que tous les éléments du poème agissent comme excipients pour révéler la seule chose que l'on ne peut pas fendre en poésie, la forme. La forme poétique est créée par nécessité et non imitée, même si cette forme se répète à l'infini, même si elle est identique dans chacune de ses réalisations, elle ne se réduira jamais à être l'imitation d'un modèle. La forme du poème s'actualise à chaque fois, se crée dans chaque poème. Quand il décrit dans les dernières lignes de son prologue ce que sont les poèmes que l'on s'apprête à lire, Cortázar dit « Il s'agit simplement des sonnets qui observent le rythme et la rime pour attraper le lecteur dans la maille de la cadence et qui assemblent des phrases dénuées de sens. » Cet attrapement, ou plutôt chute du lecteur, caïda dans l'original, fait sans doute à nouveau trembler l'institution littéraire, ainsi que l'ont fait nombre de projets cortazariens, Marel évidemment. Il est suggéré de lire les sonnets à voix haute et on trouve des indications pour ce faire. Ces poèmes se proposent secrètement de dépayser les lecteurs. Et le dépaysement était pour les formalistes russes, comme nous le savons, la clé de la littérarité. Cortázar, de son côté, considérait également que le dépaysement était l'effet que la bonne littérature devait obtenir du lecteur, bien que, pour le dire en termes cortázariens, ce que cherche cette littérature, c'est de sortir le lecteur de son train-train, de le transporter dans un autre monde, de le faire tomber pour lui révéler un sens profond, différent de ce à quoi il pouvait s'attendre. Il est évident que ces poèmes, écrits dans une langue qui veut se faire passer pour de l'italien, mais qui n'en est pas, parce qu'ils se dirigent explicitement à des lecteurs hispaniques, il m'est paru utile de placer, dit-il, des accents à la façon espagnole pour faciliter une lecture à voix haute, procure ouvertement un intense degré de dépaysement stylistique. En dépit de cela, même cet effet de dépaysement, que nous pourrions juger initial ou superficiel, relève de la fiction, comme tout dans le poème, sauf précisément sa forme. Puisqu'il signale un autre dépaysement essentiel et plus profond auquel tout lecteur qui accepte le jeu proposé par Cortázar est nécessairement soumis, le dépaysement inhérent au fait de s'interroger sur le sens d'une poésie dénuée de sens. Il semble que ce dépaysement à double niveau soit la réponse que Cortázar attend d'un lecteur hispanique, disons abstrait. Mais les sonnets de Cortázar rencontreront la réponse admirative d'un lecteur réel, exceptionnel, Italo Calvino, qui s'y confrontait depuis un autre code, son autre, sa propre langue de départ, l'italien. Le jugement de ce premier lecteur privilégié fut aussi enthousiaste que laconique. « Accidente ». Dit Calvino en m'écoutant les lire. Cette opinion m'est parue aussi généreuse que stimulante, disait Cortázar. Le mot utilisé par Calvino, mot accidente, mot homographe en italien et en espagnol, dissimule une amphibologie partielle ou un double sens uniquement sensible si l'on a simultanément à l'esprit le double code, les deux langues. C'est là ce que l'auteur insinue quand il prolonge le jeu de ces sonnets. L'expression de la surprise, en réalité en italien, si je ne me trompe pas, accidenti au pluriel, expression équivalente à l'espagnol caramba si elle est admirative ou vaya si elle est ambiguë ou marque la déception, se mélange avec l'évaluation du résultat, plus ou moins équivalente à l'espagnol casualidad, hasard, ou plus négativement, desgracia, malheur. On comprend donc que l'opinion paraisse à l'auteur à la fois généreuse pour l'admiration et stimulante pour l'évaluation du résultat qui invite à améliorer. Mais en tout cas, l'opinion officielle de Calvino agit comme une protection pour les textes, puisque d'une façon ou d'une autre, elle stimulera ou dirigera la lecture des autres. Et ce, en premier lieu, parce que pour Calvino, lecteur depuis l'italien, comme je l'ai dit, nombre des phrases de ces poèmes ne seraient pas dénuées de sens. Il ne s'agit pas des gitanjáforas, comme les appelait Alfonso Reyes, disons poésie bruitiste. Une grande partie du texte de ces sonnets se prête à une lecture traditionnelle, sensée. Les mots inventés reçoivent leur éclat par contraste avec ceux qui ne le sont pas. La multiplicité de sens, non son absence, ils impliquent, tient de plus, à leur positionnement précis à l'endroit qu'ils occupent dans le poème. Ainsi, pour terminer, il semble clair que l'épiphanie de la forme comme seul élément vrai du poème empêche que l'on prenne au sérieux l'annonce de son absence de sens. Si les langages inventés par Cortázar révèlent quelque chose, et ces poèmes sont un exemple privilégié de cette force d'invention, c'est que le sens réside dans la forme, et que toute cadence, pour trompeuse qu'elle soit, suit son propre dessein. Merci beaucoup.
Merci Daniel Misacancedo. Je pense que lorsque vous évoquez cette façon qu'avait Cortázar de chercher et de prendre en compte le genre lyrique dans une application fictionnelle, et j'allais dire inversement, ne peut pas ne pas avoir de résonance chez les écrivains.